Les paractualités.
Bonjour, ici Hélène Denis. Bienvenue à l'émission Les Paractualités du 26 octobre 2017. En manchette, le ministre Proulx souhaite plus d'élèves en difficulté dans les classes ordinaires. Transport adapté, un changement d'heure qui ne plaît pas à tous. Une salle d'art-thérapie au centre de pédiatrie sociale. Gabriel Doiron et la joie de l'écriture. Et un programme d'alphabétisation des enfants aux résultats étonnants en Alberta. En entrevue, je recevrai Jean-Paul Dumont, conseiller principal en intégration moelle épinière et motricité Québec, ainsi qu'Isabelle Côté, directrice générale et artistique du théâtre Aphasique. Le ministre Proulx souhaite plus d'élèves en difficulté dans les classes ordinaires, c'est dans ledevoir.com. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, souhaite intégrer davantage d'élèves en difficulté dans les classes ordinaires et assure que les ressources seront au rendez-vous. Il réagissait hier, mardi 25 octobre, aux recommandations du Conseil supérieur de l'Éducation qui plaide pour une transformation en profondeur de la façon dont on aborde la différence dans les écoles. Le Conseil nous dit que ça va prendre des ressources, mais également qu'il faut revoir l'approche. Et à ce sujet-là, je suis au travail, a soutenu le ministre dans un impromptu de presse hier. On va améliorer les choses au ministère de l'Éducation, on va aussi changer un peu notre façon de travailler avec les commissions scolaires. Dans les deux cas, ça va améliorer les choses. Plus de personnes en service direct, moins de bureaucratie et des sommes qui ne seront jamais plafonnées. La science est du côté de l'intégration, mais il y a une limite à cette intégration et il faut s'assurer de ne pas tomber dans le point de bascule qui fait en sorte qu'on nuit à certains élèves, ajoute le ministre. Dans un avis rendu public, le Conseil supérieur de l'Éducation affirme que le modèle actuel a atteint ses limites. Il cite pour preuve le faible taux de diplomation et de qualification des élèves handicapés, en difficulté d'apprentissage, issus de milieux défavorisés ou de l'immigration. Le Conseil faisait le constat que la classe ordinaire est de plus en plus hétérogène et qu'il faut donc arrêter de répondre aux besoins de chacun sur une base individuelle, mais penser en amont et offrir une réponse universelle aux besoins particuliers. Le Conseil dénonçait également l'approche médicale des difficultés scolaires qui stigmatise la différence et réduit l'identité de l'élève à la catégorie qui lui est assignée. Le cœur et les jambes, Geneviève Lefebvre, collaboration spéciale dans la presse. Quelques minutes avant le départ du 26 km du Tour du Mont-Royal-Brébeuf, les coureurs font leur réchauffement. Dans la lumière de ce magnifique matin d'automne, parfait pour une course, je vois une masse de t-shirts rose flash, les coureurs de l'organisation Le cœur et les jambes. Le cœur et les jambes, c'est une association québécoise fondée par des passionnés de course à pied qui a un objectif clair. Que des enfants qui vivent avec une déficience motrice, visuelle, auditive ou intellectuelle puissent participer à des défis sportifs. Aujourd'hui, c'est Rebecca, 10 ans, qui est le pilote de la Goélette, un fauteuil adapté pour la course, affectueusement baptisé Jojo. En décembre 2016, alors qu'elle faisait partie d'une équipe de basket, Rebecca a reçu un diagnostic d'ostéosarcome au fémur gauche, 9 mois de chimiothérapie intensive, et une prothèse plus tard, Rebecca trône comme une reine sur Jojo, emmitouflée dans une parka fuchsia qui s'harmonise avec le rose des chandails de ses vaillants porteurs. Au son de la corne de départ, les voilà partis pour 26 km dans les sentiers sinueux du Mont-Royal. J'ai connu l'organisation Le cœur et les jambes grâce à mon ami. C'est ça le sport, on se fait des amis partout. Sylvie Mallard, avec qui je nage toutes les semaines à l'aube. Parmi les coureurs de l'armée rose du Tour du Mont-Royal-Brébeuf, il y avait mon ami, encore, David Paciola, coach émérite en course et triathlon et athlète accompli dont c'était la première expérience avec cette organisation hors du commun qui place les enfants au cœur de l'aventure. C'est à lui que je laisse le mot de la fin. Ça a été une superbe expérience, un dépassement physique avec des coéquipiers fantastiques sans mesure de performance ni d'objectif de temps, et en donnant un bel avant-midi en cadeau à notre pilote Rebecca. C'est difficile de demander mieux. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jean-Paul Dumont, conseiller principal en intégration moelle épinière et motricité Québec, MEMO, et l'un des organisateurs du Salon des innovations technologiques qui s'en vient très bientôt. Bonjour, Monsieur Dumont.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien, vous-même.
Oui, est-ce que vous vous sentez prête pour le salon qui a lieu le 28 octobre?
Oui, absolument. Donc, on est prêt. Ça fait quand même un an qu'on travaille sur ce projet-là.
Oui.
Donc, c'est un projet de longue haleine. Il faut se préparer longtemps d'avance.
Certainement, pour que ça soit une réussite. Et pourquoi vous avez décidé de mettre sur pied ce salon, un salon de ce type-là?
En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui pointent à l'horizon et puis qu'on ne connaît pas, en fait, vraiment. Moi, je suis dans le domaine depuis une dizaine d'années et puis j'en apprends toujours.
Mm-hmm.
Donc, quand je regarde les membres ou ceux qui sont concernés par les nouvelles technologies, les connaissent peu ou pas du tout. Donc, de là notre désir de faire connaître ces technologies-là qui peuvent changer vraiment le quotidien des personnes.
Alors, c'est une première édition. À qui il s'adresse exactement?
Donc, le salon s'adresse surtout aux membres, aux personnes qui sont paraplégiques, tétraplégiques, on les a à la moelle épinière. Il y en a qui peuvent être incomplets, c'est-à-dire qui conservent la marche, et ça s'adresse aussi à toute personne qui a un handicap, qui veut en apprendre plus sur les technologies. Donc, voici.
D'accord. Est-ce qu'il va y avoir des démonstrations? Est-ce qu'on pourra participer à des expériences?
En fait, la particularité de notre salon, justement, c'est que en plus de professionnels du centre de l'IRGLN, du centre Lucie Bruneau, il y a aussi des fournisseurs qui sont là pour répondre aux questions des gens plus précisément. Et il y a aussi les utilisateurs, donc des membres qui viennent avec leur propre technologie pour nous en parler, mais en parler de l'intérieur. Donc, ces gens-là vont répondre aux questions des gens. Et puis, après ça, les gens, s'ils veulent, ils peuvent aller plus loin, voir un fournisseur pour voir plus précisément les coûts liés puis tout ça, en fait.
Mm-hmm. Vous avez invité combien de personnes? C'est-à-dire que je parle pas du public, de la clientèle, mais les gens qui vont être au salon pour expliquer, présenter des innovations technologiques?
En fait, il y aura 23 exposants.
Vous avez le chiffre précis.
23. Oui, absolument. Donc, 23 exposants, plus d'une quarantaine de technologies. Ça s'adresse pas seulement aux gens qui sont concernés par la situation. Ça s'adresse aussi aux autres, aux amis, à la famille, aux professionnels aussi qui seraient intéressés de venir voir en un seul après-midi un ensemble de technologies rassemblées qui sont, ma foi, difficiles à voir autrement que dans un salon comme ça.
Pouvez-vous nous donner des exemples?
Certainement. Donc, il y a le Segway adapté qui est un Segway assis, en fait, sur deux roues, un peu en équilibre. Il y aura deux personnes, deux membres qui ont ça et puis ils vont nous faire des démonstrations. Il y a aussi les roues Emotion. C'est une roue à batterie intégrée dans la roue qui facilite la propulsion pour des gens qui sont tétraplégiques, par exemple. Il y a la Smart Drive aussi, une roue intelligente qu'on met à l'arrière d'un fauteuil manuel pour la propulsion. Voici quelques exemples.
Oui, puis ça donne de l'espoir, j'imagine. Est-ce que les visiteurs vont certainement repartir avec de nouveaux outils?
Oui, ça c'est certain. Et puis, ils pourront les voir en action parce que certaines technologies, on fera des démonstrations là au centre de la place pour que les gens les voient et puissent répondre à leurs questions.
C'est merveilleux. Ça se passe au Centre sportif Jean Rougeau. C'est gratuit. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer au salon?
Non, c'est pas nécessaire. Donc, c'est une porte ouverte. On attend les gens. Et puis, voici, simplement se rendre. Et puis, ça nous fera plaisir d'accueillir les gens.
Alors, c'est parfait. On va s'y rendre. Centre sportif Jean Rougeau, l'adresse 8000 rue de Normanville. C'est à Montréal et ça se déroule le 28 octobre. C'est samedi.
Oui.
Vous ouvrez les portes à quelle heure?
On ouvre les portes à 12h30.
Jusqu'à
16h30.
Bon, bien, bon salon, M. Dumont. Puis, on se reparle une prochaine fois.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Une nouvelle sur l'hebdo saintmaurice.com, transport adapté, un changement d'heure qui ne plaît pas à tous. Le président et la directrice générale de l'organisme Handicap Soleil, Dany Martel et José Houle, se sont déplacés à l'hôtel de ville lors de la dernière assemblée du mois d'octobre afin de dénoncer le changement d'heure pour le transport adapté. On se demande si on fait partie intégrante de la ville. C'est un service essentiel pour les personnes handicapées à Shawinigan. On aimerait au moins avoir les horaires qu'on avait avant, évoque Dany Martel, président de l'association Handicap Soleil. En janvier dernier, l'horaire a été changé. Auparavant, le service offrait un total de 90h30 par semaine contre 73h30 depuis janvier dernier. Les heures le week-end sont de 9h à 14h actuellement. Avant, c'était de midi à 21h le samedi et de 9h30 à 17h30 le dimanche. José Houle, la directrice générale d'Handicap Soleil, qui fait partie aussi de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté au Québec, a mentionné qu'il s'agissait de la discrimination selon l'article 15 de la Charte canadienne des droits de la personne. De plus, Mme Houle indiquait qu'une ville peut recevoir jusqu'à 65 % de son budget pour le transport adapté par l'octroi d'une subvention par le ministère des Transports. Ce n'est pas le cas présentement. Le député Pierre Giguère pourrait porter le dossier au ministère, mais ça lui prend de la chair autour de l'os. Lors de l'Assemblée, le maire Michel Anger a indiqué que la ville ne veut aucunement faire de discrimination. « Nous allons nous mettre au travail. Vous avez raison, c'est prévu que les deux tiers du budget pour le transport adapté soient assumés par le gouvernement. » Dans l'hebdojournal.com, une salle d'art-thérapie au Centre de pédiatrie sociale. Un souhait du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières est devenu réalité grâce à un don de 20 000 $ de la Fondation Richelieu. Une salle d'art-thérapie a pu être aménagée au bénéfice de sa jeune clientèle. Inaugurée ce mercredi, cette salle se veut un outil d'intervention supplémentaire pour l'équipe clinique qui dessert un peu plus de 300 enfants présentant divers traumas ou problèmes très difficiles à surmonter. Nous devons être innovateurs dans nos moyens d'intervention et l'art-thérapie s'inscrit dans cette lignée, indique Émilie Fleurant-Auger, directrice clinique du CPSTR. L'art-thérapie permet à l'enfant d'exprimer à travers ses propres images ce qu'il est incapable de mettre en mots. Le dessin, la peinture, le bricolage et la sculpture sont les principaux moyens utilisés. Un art-thérapeute accompagne l'enfant et des suivis sont ensuite faits auprès du médecin et de la travailleuse sociale pour que chacun chemine ensemble. Le simple fait de mettre ses expériences sur papier introduit une distance entre l'enfant et son vécu, ce qui lui permet d'extérioriser son expérience et de mieux gérer les émotions complexes qui y sont liées, précise Mme Fleurant-Auger. On se rappelle que le Centre de pédiatrie sociale œuvre auprès des enfants vulnérables, 0-14 ans, de quartiers défavorisés de la ville de Trois-Rivières. Il vise à prévenir les situations de mauvais traitement et de négligence en offrant des programmes de soutien et de services sociaux aux enfants, aux parents et aux personnes significatives qui les accompagnent. Et je m'entretiens maintenant avec Isabelle Côté, directrice générale et artistique du théâtre Aphasic. Bonjour, Madame Côté.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous pour nous parler du spectacle intitulé « Le dernier mot » présenté demain au Petit Medley, rue Saint-Hubert. Ce n'est pas une première, par contre.
Non, c'est un spectacle qui roule depuis près d'un an et demi.
Ah oui.
En fait, c'est un spectacle un peu particulier, c'est-à-dire que nous, on a demandé à 6 auteurs, 6 dramaturges québécois d'écrire pour nous sur le sujet du dernier mot.
Qui sont les dramaturges?
Nous avons François Archambault, Chantal Cadieux qui a écrit « Mémoire vive mm-hmm. », Martin Bellemare et Olivier Sylvestre. Et donc, on a également un texte de Laurie Tremblay, mais qui ne sera pas joué à cette occasion-là. Donc, on a 6 pièces, mais on en joue 4 demain. Oui, et puis c'est évidemment sur le thème du dernier mot. Pour nous, ce qui est important, c'est de traiter de communication.
Oui.
Comme on a des personnes aphasiques qui sont les comédiens, on ne parle pas toujours d'aphasie dans nos spectacles, mais c'est important quand même de sensibiliser et de parler de communication, ou du moins des difficultés de communiquer. Là.
Brièvement, rappelez-nous la mission du théâtre aphasique, le TA.
Oui, alors bien, il y a d'une part des deux types d'activités au théâtre aphasique. Il y a des ateliers d'art dramatique pour aider les personnes aphasiques à retrouver leur capacité au niveau de la parole, au niveau de l'expressivité, du geste. Et donc, d'une part, donc ces ateliers-là. Et ensuite, il y a la troupe, donc des gens qui vont s'impliquer dans la troupe de théâtre comme comédiens et qui vont présenter des spectacles un peu partout au Québec, mais également à l'étranger, pour sensibiliser les gens à l'aphasie. Les gens connaissent que l'aphasie. Alors, ça devient un moyen qui est intéressant là, de faire connaître l'aphasie à travers ces représentations-là.
Et est-ce qu'on réalise comme spectateur que les comédiens sont aphasiques?
Bien, écoutez, on s'en cache pas, d'une part, avec un titre comme le théâtre aphasique.
Certainement.
Mais c'est sûr qu'on va bien sûr en reparler souvent. En fait, on va organiser une petite discussion après le spectacle.
Ah oui, toujours comme rappeler. Ça? Ça se passe comme
oui,
ça?
Principalement quand c'est possible de le faire. Là. Bon, quand on joue dans des festivals de théâtre, tout ça, c'est pas toujours possible. Mais quand c'est nous qui organisons là, la représentation, effectivement, on va parler avec le public, on va rementionner un peu qu'est-ce qui est arrivé aux gens, on va les présenter, nos comédiens. Donc, oui, c'est important que les gens comprennent bien que les gens ont tous fait un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, par exemple, et qu'ils ont eu des séquelles qui ne sont pas toujours visibles parce que certains vont s'exprimer quand même plutôt librement, mais il y a certainement quand même des difficultés. Ils vont avoir des manques d'humour, des hésitations, des problèmes de mémoire, de fatigabilité. Donc, ils ont à différentes échelles tous leurs difficultés puis leurs limitations.
Oui, parce que l'extrait que j'ai regardé sur votre site Internet hier... Je pouvais pas vraiment deviner que les personnes avaient des difficultés de communication parce que ça coulait pas mal bien.
Pas mal bien, oui.
Oui.
C'est pour ça que c'est intéressant la discussion après, parce que souvent, les gens entendent le texte, ah ben oui, ben ils sont bons, est-ce qu'ils sont vraiment phasiques? Puis là, après, ils vont leur poser des questions après, et là, c'est là qu'on voit dans les hésitations, parce que là, le texte, il n'est plus appris, c'est une improvisation, on répond à la question.
Oui.
Puis là, c'est souvent là que les comédiens vont avoir plus de difficultés à s'exprimer.
Ah oui, je comprends.
Parce qu'ils ne sont pas en train de réciter un texte. Donc,
c'est
là qu'il va avoir des problèmes. Ça ne coule plus, on a de la difficulté, on ne trouve pas les mots.
Ah oui, une fois que le texte est appris par cœur, c'est plus facile de le communiquer.
Oui.
Ah, OK, d'accord, oui.
C'est ça. Tout dépendant, évidemment, selon les difficultés de certains. Des fois, c'est très arthritique. Donc, au niveau de l'articulation, pour certains, ça va être difficile. Et puis là, même le texte appris va quand même moins bien débouler. Mais pour d'autres, effectivement, c'est le texte est appris, puis ça va couler. Mais dans la vie de tous les jours, ben on connaît pas les réponses.
Non,
donc,
certainement.
Et là, les idées se bousculent, puis on ne sait pas nécessairement, on veut choisir les bons mots, puis tout reste dans la tête, puis c'est difficile pour eux de sortir puis de faire une phrase, donc de maintenir une idée.
Et d'avoir le dernier mot.
Et d'avoir le dernier mot, voilà.
La pièce, justement, si on y revenait, Madame Côté, vous pouvez nous résumer un ou deux tableaux. Vous nous dites qu'il y en a 6 habituellement. Là, vous allez en présenter 4. Un ou deux tableaux.
Voilà. Ben écoutez, on a d'abord une pièce qui s'appelle « Les derniers mots d'un père mourant à ses 3 filles chéries ».
Alors, c'est ce que vous présentez sur votre site Internet.
C'est ça, le père qui agonise et les filles qui essaient de savoir qu'est-ce que le père veut leur dire et il va tenter de s'exprimer jusqu'à la fin de la scène. On a ensuite une séparation. La dernière danse, là, c'est une séparation. Un couple qui va divorcer et qui se rencontre pour la dernière fois pour signer les papiers de divorce. Donc, cette pièce-là s'appelle La dernière danse.
Est-ce qu'il y a un lien, alors, un fil conducteur entre les tableaux, là, d'après ce que vous me dites, pas vraiment, à part, oui, l'idée du dernier mot, mais pas les contextes sont différents, là?
Les contextes sont différents, les univers sont complètement différents. Évidemment, on a des auteurs qui écrivent dans des contextes vraiment... Chacun a son style à lui. On a des comédies, du théâtre plus poétique, des drames. Donc, c'est très varié. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de fil conducteur. Sinon, justement, ce fameux thème-là du dernier mot, les spectateurs, évidemment, sont mis au courant de ce thème-là qui unit chaque scène. Et puis, nous, ça nous permet, comme ça, de jouer le spectacle, de s'insérer dans différents événements. Donc, il est possible pour nous d'aller présenter, dans le cadre d'un événement, une scène. Donc, un moment de 20 minutes.
Oui.
Et on peut jouer dans un autre événement où, là, on aurait besoin de présenter une pièce d'une heure. Ben, on peut choisir trois scènes, par exemple, puis décider de présenter une heure de spectacle ou deux heures. Donc,
justement,
comme on...
Oui, il est possible
dans des contextes particuliers, là, on a un théâtre de sensibilisation. Donc, comme ça, on peut décomposer puis présenter toutes sortes de numéros et s'adapter là, au type d'événement.
Ah oui, et au type de spectateur?
Voilà, oui, ouais. Tout à fait.
Il est possible aussi de vous inviter pour une représentation, justement. Là, comment ça fonctionne en terminant si on est intéressé à vous inviter?
Bien, c'est très simple. En fait, il y a tout simplement à communiquer avec nous, le théâtreaphasique.org, qui est notre site web, ou à communiquer avec nous à l'hôpital Villa Medica où nous sommes situés. Donc, en allant sur notre site, il y a bien sûr toutes les informations pour nous rejoindre. Puis, c'est assez simple. Donc, oui, on peut nous faire venir, que ce soit dans un centre pour aînés, à l'occasion d'une fête. On a joué pour différentes compagnies aussi. Ça reste quand même très ludique. On a un beau spectacle de qualité professionnelle. On s'entoure de gens professionnels avec des costumes et des décors. Et donc, on a un beau spectacle. Et en fait, en même temps, bon, ben, ça nous permet de sensibiliser les gens encore et de venir faire un petit moment de sensibilisation. Mais... agréable.
Alors, on peut faire connaissance avec vous, si ce n'est déjà fait, en allant voir Le dernier mot. C'est au Petit Medley, le 27 octobre, rue Saint-Hubert. Un grand merci, Isabelle Côté, directrice générale du TA.
Merci.
Est-ce que vous dites
beaucoup.
Le théâtre aphasique?
Oh, le théâtre aphasique, on n'est pas encore rendu au TA, mais peut-être que ça va y venir.
Ça viendra peut-être.
Les gens rapetissent, oui, c'est ça.
Merci et au plaisir.
Merci.
Un programme d'alphabétisation des enfants aux résultats étonnants en Alberta, c'est sur le site de Radio-Canada. Un programme d'intervention auprès d'écoliers souffrant de lacunes en lecture donne des résultats étonnants à Edmonton. Sur les 290 élèves pris en charge par le programme il y a 3 ans, seuls 7 éprouvent encore aujourd'hui des difficultés à lire, soit un taux de réussite de 98 %. Ce résultat est rendu possible grâce à quelques dés, à une poignée de lettres de Scrabble et au dévouement d'une équipe d'interventionnistes qui croit au potentiel de chaque enfant. Le matériel qu'on utilise dans les interventions doit coûter maximum 15 $, explique Kirsty Dunn, en sortant un sac rempli d'objets. Quelques cartons sur lesquels des mots sont inscrits, de grands dés à jouer, un livre pour enfants. Kirsty Dunn et son équipe n'avaient pas besoin de plus pour apprendre à lire à des enfants dont les retards en lecture menaçaient de compromettre l'ensemble du parcours scolaire. À raison de 3 séances de 30 minutes par semaine, les membres de l'équipe ont réussi à combler les lacunes des écoliers tout en leur faisant aimer l'apprentissage. Des élèves qui sont en retard en classe vont jusqu'à perdre l'envie d'essayer de peur de commettre une erreur. Les écoliers qui ressortent de nos séances sont remplis de confiance. Ils sont prêts à prendre des risques, ils sont fiers d'eux-mêmes. Le maître d'œuvre du programme s'appelle Georges Georgiou, professeur de psychologie éducationnelle à l'Université de l'Alberta. C'est en constatant les coûts personnels et sociétaux de l'analphabétisme qu'il a décidé de concevoir un programme chargé de guérir le mal à sa racine. Les résultats ont dépassé les espérances du professeur Georgiou, qui espère désormais voir le programme implanté partout en Alberta et de manière permanente. We'll be right back. Gabriel Doiron et la joie de l'écriture. Lecteur passionné, Gabriel Doiron publie un premier livre, Randonnée en mer, qui conjugue histoire d'amour, substances illicites et un soupçon de fantastique. Ce roman qu'il vient tout juste de lancer reflète aussi un peu les façons de voir la vie de cet auteur au parcours singulier. Originaire de Saint-Charles-de-Cante, Gabriel Doiron vit aujourd'hui au manoir O'Leary, à Richibucto, une résidence communautaire pour jeunes adultes ayant besoin d'encadrement et qui favorise l'inclusion sociale. Le cheminement de cet auteur âgé de 33 ans est particulier puisqu'il vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Il en a fait du chemin en quelques années. Gabriel Doiron est bien engagé dans sa communauté. Aujourd'hui, il gère le O'Leary Art Café qui accueille des activités de la Société culturelle Cante Nord. Il a développé aussi un projet de serre communautaire. Bien qu'il a toujours aimé écrire, il ne pensait pas un jour publier un livre. C'est au cours d'un voyage de pêche avec ses parents qu'il a commencé à imaginer ce récit il y a environ 5 ans. Quand des idées lui venaient, il écrivait. Parfois, ça a été difficile. Il y a des journées où je pouvais écrire et d'autres où je ne pouvais pas écrire, a partagé l'auteur en entrevue au Salon du livre de Dieppe. Il y a 3 ans, il a joint le groupe J'écris ma vie, Nouveau-Brunswick, qui l'a aidé à poursuivre son rêve d'écrivain. Ses voyages l'ont aussi beaucoup inspiré. Ce premier roman raconte la vie de Sid qui a grandi dans une famille catholique auprès de ses 12 frères et sœurs. L'équipe de la Clinique d'évaluation des troubles du spectre de l'autisme accueillera cette semaine ses premiers clients dans les locaux de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Notez que vous pourrez désormais joindre la clinique au 450-463-1710, 450-463-1710, poste 279. La relocalisation de cette clinique, auparavant localisée au sous-sol de l'hôpital Charles-Lemoine, permettra la création dans les espaces laissés vacants d'une nouvelle unité d'endoscopie. Ces mouvements et projets permettront de transformer les espaces où sont offerts les soins et services afin de permettre le développement et l'amélioration de ceux-ci. C'est tout pour les paractualités du 26 octobre 2017. Merci à mes invités, Jean-Paul Dumont et Isabelle Côté. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde et à la recherche Anne-Laure Janson. Ici Hélène Denis. Bonne journée. On se retrouve en ce qui concerne les paractualités la semaine prochaine.